Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com. Bienvenue à la 17e édition de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons de l'épisode Innocence of Ryloth. Cet épisode est le 20e à être mis en onde, mais il a été le 17e à être produit. Il a été écrit par Randy Stradley, Henry Gilroy et Scott Murphy. Et il a été réalisé par Justin Ridge. Les personnages principaux de cet épisode sont Obi-Wan Kenobi, le clone commander Cody, Waxer, Boyle et la petite Twi'lek Numa. Voici le résumé détaillé de cet épisode. Suite à la libération du blocus par Anakin Skywalker et Ahsoka Tano, Kenobi doit faire de la cité de Naba une zone sécurisée permettant l'atterrissage du gros des troupes. Mais la ville est déjà occupée par les séparatistes qui ont érigé une base bien protégée. Ses canons à protons anti-aériens sont prêts à en découdre avec les transports de classe Acclamator, tandis que les Twi'leks sont utilisés comme boucliers humains. Des républicains libèrent les canonnières et à bord de la Crumb Bomber, Obi-Wan Kenobi fait le point avec ses hommes. L'objectif est de libérer Naba et de provoquer le minimum de destruction. Pendant ce temps, Mace Windu et le commandant clone Pond font face à la défense anti-aérienne de TX-20, alors que sous leurs yeux, un des acclamateurs est violemment touché. Windu contacte immédiatement Kenobi et la compagnie Ghost pour leur demander de se charger des canons à protons séparatistes. Les transports se replient tandis que les canonnières pénètrent davantage sur le terrain ennemi, ce que TX-20 avait anticipé. Les unités de Kenobi se posent en pleine jungle à l'extérieur de la ville pour que les troupes puissent être à couvert. L'avancée des clones n'est pas passée inaperçue et les droïdes, à l'abri dans les bunkers en lisière de ville, accueillent les républicains par un feu nourri. Retranché derrière les arbres, Kenobi ordonne à Waxer et Boyle de le suivre au plus près des positions ennemies. Sur place, il lance des grenades à impulsion électromagnétique dont la trajectoire est corrigée par la télékinésie de Kenobi. La première ligne de défense droïde vient de tomber. TX-20, froid calculateur, demande des compléments d'information et envoie des droïdes sondes épier les faits et gestes de l'armée républicaine. Kenobi, de son côté, ordonne également une mission de renseignement avant de se diriger vers les canons. Cody, Woolly, Waxer et Boyle sont chargés de cet objectif. Le groupe se sépare afin de couvrir un plus large périmètre, mais Waxer et Boyle ne tardent pas à être suspicieux. De leur côté, Cody et Woolly tombent sur une force droïde majeure, des douzaines de droïdes de combat escortés de tanks, AAT, mais surtout les canons anti-aériens protégés bien malgré eux par les Twi'leks. La présence d'otages complique considérablement la tâche de Kenobi. Au cours de l'entretien avec Cody et Mace Windu, Kenobi assure qu'il peut remplir ses missions avant de poursuivre sur le plan qu'il a mis au point. TX-20, par l'intermédiaire d'un droïde sonde, ne rate rien de la scène. Au sud de la ville, Waxer et Boyle tentent de trouver l'origine des sons étranges qu'ils entendent depuis quelque temps jusqu'à se retrouver face à Numa, une jeune Twi'lek de 5 ans. Alors que Waxer est concentré sur sa mission initiale, Boyle ne peut s'empêcher de penser à Numa et ce qu'il doit faire d'elle. Numa, face aux imposantes armures, croit avoir affaire à des droïdes. C'est pourquoi elle se défend lorsque Boyle tend la main vers elle en mordant le bout de son doigt. Après avoir ôté leur casque, les clones lui apparaissent plus familiers. Elle les appelle Nera. Numa, affamée, ne rechigne pas à empoigner une barre de ration quand un des clones la lui tend. Cody commence à s'interroger sur l'absence de ses hommes, puisqu'ils auraient dû rentrer depuis longtemps. TX-20 prépare sa contre-attaque. Grâce au Gutkur, qui l'affame depuis plusieurs jours, il a transformé ses animaux en redoutables prédateurs. En les relâchant de leur géole, les bêtes vont se précipiter sur les clones. Alors que Boyle et Waxer reçoivent une transmission de Cody, ils se rendent compte de leur retard et ils n'ont pas le temps de réfléchir à une excuse que Numa les alerte de la présence des Gutkure. Les décharges de Blaster ne semblent pas ralentir les monstres. Les deux clones et la Twi'lek se réfugient derrière les murs d'une ancienne maison, mais les Gutkure se ruent contre la fragile porte. Acculé dans les ruines de son ancienne demeure, Numa se rappelle la présence d'un passage qu'elle indique à Waxer et Boyle. La compagnie Ghost, menée par Kenobi, affronte aussi son lot de Gutkure. L'armement des clones est inadapté et TX-20 le sait. Il s'empresse d'annoncer son succès à Tambor. Malheureusement pour lui, Obi-Wan Kenobi est plein de ressources et grâce à la Force, il réussit à calmer les bêtes suffisamment longtemps pour les amener dans une impasse. Les clones n'eurent qu'à faire exploser une partie de la paroi pour emprisonner les Gutkure derrière des tonnes de pierres. Waxer et Boyle émergent d'un égout, suivis de près par Numa. Échangeant quelques mots en Twi'lek, Obi-Wan apprit que Numa allait pouvoir les guider dans les réseaux des égouts, ce qui leur permettrait de prendre à revers les séparatistes. Le général Jedi prépare deux groupes. Cody dirigera le premier et sera chargé de créer une diversion avec quelques soldats survivants. Kenobi, Waxer et Boyle prendront le chemin des catacombes. Peu après, les trois hommes se trouvent dans les souterrains. Ils refont surface au moment même où Cody attaque, ce qui leur permet de libérer les prisonniers Twi'lek. Ces derniers se réfugient dans les cavernes tandis que Kenobi prend les commandes d'un canon à protons. Un droïde de combat repère les trois républicains et alarme TX-20 alors occupé à repousser Cody et ses hommes. Le droïde dévie sa course et reprend le chemin de sa base. Mais Kenobi a les canons en cible et, avec Waxer et Boyle, pour recharger son propre canon, le Jedi ne tarde pas à détruire deux plateformes de défense. TX-20 arrive alors que deux de ses canons sont en pièces. Il dirige dans son tank vers Kenobi et tire un missile dans la foulée sur le canon. Kenobi a juste le temps de sauter pour éviter d'être emporté dans l'explosion. Sonné comme les deux clones qui l'accompagnaient, Kenobi s'aperçoit de la présence de Numa, venue l'aider à se relever. Impressionné par le geste de la jeune Numa, les autres Twi'lek, dont son oncle Nilim Bryl, foncent sur TX-20. Le droïde n'a pas le temps d'achever Kenobi. Le peuple qui retenait prisonnier le met à terre avant de le démembrer. Avec les batteries anti-aériennes détruites, les transports républicains peuvent se poser à Nabat. Mace Windu vient féliciter Kenobi tout en lui précisant de se concentrer sur le reste de sa mission, rendre la capitale de Lesu. Pendant ce temps, Waxer et Boyle font leurs adieux à Numa, qui les appelle une dernière fois Nera. Kenobi leur fait part enfin de la signification du mot Nera, qui signifie frère. François, Jean-François et moi-même avons discuté de cet épisode. Voici nos commentaires. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, le fortune cookie de cette semaine, The Cost of War Can Never Be Truly Accounted For. Donc, en gros, le coût de la guerre ne peut jamais être véritablement pris en compte. Je sais pas à quoi vraiment l'attacher. Peut-être...
Ben moi, je l'associerais aux innocents, dans le fond. Donc, ils utilisent... les Twi'leks comme des boucliers humains, donc ces personnes-là sont pas comptées en tant que telles, parce que souvent tu comptes juste les soldats d'un côté.
En effet, c'est un point.
C'est comme ça que je le voyais là. Mm-hmm.
Je pense aussi qu'il y a un message avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, au Moyen-Orient.
En effet, c'est vrai qu'ils ont pu faire un message par rapport à ça. Vos premières impressions, disons, François en premier.
Moi, j'ai trouvé l'épisode... en fait, quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé correct. C'est pas comme si j'avais été impressionné par l'épisode. Je sais pas, il y avait pas de oomph Il y avait quelque chose qui manquait dans cet épisode-là. Je sais pas c'est quoi, là, mais... Mm-hmm. Il est quand même trouvé bon, là, mais... c'était overall, il peut-être m'a un peu déçu. Mm-hmm.
Toi, JF?
Moi, j'ai trouvé très bon. Je comprends le point que François amène, mais moi, j'ai trouvé... C'était plus le côté, je sais pas, t'sais, c'était plus concentré sur Obi-Wan pis les soldats clones. Fait que ça, c'est le côté que j'aime plus. Mm-hmm. Que tu sais, il y avait pas genre Ashoka puis tout ça, fait que j'ai plus aimé ça. Il y a des bouts c'était assez même je trouvais assez intense même pour des enfants là, qui écoutent la série. Mm-hmm. Mais en gros non, j'ai trouvé ça très bon.
Moi, ma première impression, ben c'était un bon deuxième acte, mais malgré le fait qu'il y a beaucoup de développement de personnages, des clones, Boyle Waxer puis de la petite Twi'lek, j'ai trouvé bon mais pas autant que le précédent. Le précédent, moi, il m'avait vraiment les batailles spatiales, puis c'était vraiment de la grosse action. Il y avait quand même beaucoup d'action au sol, donc c'était quand même bien. Mais, comme François dit, il y a quelque chose qui manquait.
C'est comme un prélude à la grosse attaque, dans le fond. C'est comme... t'envoies les scouts en avant, là, puis tu déblais là, avant. C'est un peu ça.
Puis, tu sais, on le savait qu'il allait réussir à libérer les Twi'lek puis détruire les canons, là. C'est comme... Il y avait aucun stress, là.
C'est Star Wars, quand même.
On peut dire qu'enfin, on a vu Obi-Wan utiliser la Force. Ça faisait un bon bout de temps qu'on ne l'avait pas vu, il me semble.
C'est vrai. Puis c'était assez puissant. Là. Il a quand même commandé plusieurs bêtes en même temps. Là. Mm-hmm.
Donc, j'essaie de me rappeler la dernière fois qu'on l'a vu utiliser la Force. Parce que la plupart du temps, il était en hologramme. Là, mais bon, il était dans le Malevolence, là, dans l'épisode avec les trains. Il y avait avec les pirates aussi. Quand il était...
Le deuxième épisode des pirates, je crois, quand Ahsoka les a sauvés, il était dans la grotte avec les bêtes, là, je me rappelle plus leur nom.
Gundark.
Ouais, Gundark.
Mm-hmm. Fait que je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'on a vu Obi-Wan en action, vraiment. C'est vraiment concentré sur Ahsoka puis Anakin. Puis comme te dit Jean-François, c'est bon de pas les avoir vus. Faut quand même leur donner le temps de retourner au vaisseau. Prendre une douche puis de repartir.
Non, mais c'est le fun d'avoir un break de temps en temps comme ça, parce que tu peux développer d'autres personnages. Là, tu peux pas tout le temps être concentré sur les mêmes, là, parce que la routine va revenir un peu, les interactions vont se répéter. Là, donc,
Mais à la monde, ils vont perdre d'intérêt. C'est tout le temps la même affaire qui arrive avec les mêmes personnages. C'est comme... Même les auteurs, à un moment donné, ils vont manquer d'idées. Là.
Mm-hmm. Ouais, en effet.
Ils vont pouvoir mettre Jar Jar.
Ouais, non. on pourrait dire il y a une espèce de oui, t'avais le développement de personnages qui était majoritairement les deux clones puis la petite Numa.
En fait, ça c'était bon ça. Mm-hmm.
C'est
parce que en fait, tu vois que les deux clones ont vraiment des personnalités différentes. Il y en a un qui est vraiment plus attachant puis l'autre il est plus by the book. On fait la mission là, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est le débat. Est-ce qu'on aide la petite Twi'lek ou bien on continue l'émission là? C'est vraiment la question qui se posait entre les. Je veux dire, c'était la décision à prendre. Qu'est-ce qui est plus important, sauver la petite ou sauver la planète? Ben, sauver le reste du monde. C'est une personne ou plus, t'sais. Il y avait quand même un rôle.
J'ai juste dit, j'ai aimé ça, moi, comment Boyle il référait aux Twi'lek, ils appelaient les Tellheads.
Mm-hmm. Oui, oui, les.
C'est comme il y a un petit préjudice, on dirait, hein. Il y a quelque chose, c'est comme des esclaves, mais non, c'est pas des esclaves. En tout cas, ils ont comme c'est des sous-hommes, on dirait, de la façon qu'ils les traitent, là. Je sais pas.
Mais je sais pas c'est qui exactement qui dit ça. Tu sais, des fois, c'est vraiment difficile à savoir c'est qui dit quoi dans c'est ça que j'ai
ça
moins aimé.
Ça devait être Boyle.
Ouais.
Parce que je pense que c'est lui.
C'est Boyle, moi aussi.
OK. Ah, c'est ça, c'est Cody dit « Keep an eye out for the locals ». Puis Boyle, il dit « If we're here to free the tailheads, the least they can do is keep out of our way ». Donc,
ouais, c'est ça.
C'est vraiment Boyle, il dit « Ben là, on vient vous libérer, là. Laissez-nous le chemin, là, dans le fond, là. Laissez-nous travailler. »
Obi-Wan, il dit « On est ici pour libérer le peuple, pas pour détruire leur planète, là. »
Leur maison, ouais, c'est ça.
C'est ça, ben en fait, si tu regardes en background, ça, j'aimais ça, je sais pas si c'est bon, il y avait comme deux bazookas, là, il était obligé de les laisser tomber, puis il était pas content, là.
Hein? Je me souviens pas de ça du tout.
Quand ils sont dans le gunship, puis ils disent d'utiliser juste les EMP, dans le fond, les grenades EMP, puis là, il y a quelqu'un qui avait deux bazookas sur lui, puis il les enlève, tu sais.
J'ai même pas remarqué, mais je vais le regarder juste pour voir ça, parce que c'est quand même une affaire du mot. J'imagine le gars qui est spécialiste de démolition, puis il est tout content que c'est le best du gars, puis oh, excuse, mais on fera pas sauter rien. Oh non.
Je sais pas si c'est Boyle, mais... Mais moi, ce que je trouve un peu de contradiction, c'est que je pense que c'est Waxer qui est le plus gentil dans les deux, en fait, qui est le plus social là, envers la petite Twi'lek. Mm-hmm. C'est celui qui a les barres sur le côté du casque, comme de quoi il a tué le plus.
Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est le contraire. Boyle est celui qui veut aider la fille, puis Waxer, c'est celui qui, justement, que ça, comme tu as remarqué sur son casque, il y a le nombre de kills, là, le nombre de droïdes qu'il a tué. Il y a comme des petites barres sur son casque, là. Fait que je pense que c'est l'inverse. C'est ça que je dis, c'est difficile à vraiment identifier lequel qui est lequel quand ils parlent, surtout quand ils enlèvent leur casque. Ben, il y en a un qui a des cheveux, l'autre qui en a pas, là, mais... Okay. Ben, moi, au début, j'étais convaincu que les clones, il y aurait un super sens de discipline, puis la mission en avant, fuck la petite fille, puis... Mais enfin, ils ont... Tu sais, les deux l'ont laissé à un moment donné, mais est-ce qu'ils l'ont quitté en sachant qu'elle allait les suivre? Ou ils l'ont laissé là parce que, bon, c'était pas leur mission de la secourir. Puis elle a suivi, tu sais. Est-ce que dans leur tête, ils disent, oh, regarde, on va y aller, elle va nous suivre. C'est ça que je me pose la question. Est-ce qu'ils ont, bon, ils l'ont vraiment laissé là? Ou ben, ils ont dit, non, regarde, elle va nous suivre, là, puis on va la protéger, tu sais.
En fait, je sais pas, mais d'après moi, il anticipait un peu qu'elle allait suivre, là, je sais pas.
Mm-hmm. Puis quand même,
c'est après qu'elle les ait déjà appelés brother, là.
Ouais, c'est ça. Puis quand même, il enseigne pas comment faire du gardiennage puis comment avoir des sentiments sur Kamino dans leur entraînement. Fait qu'ils s'en ont quand même bien tiré.
Ouais.
T'avais aussi le Tactical Droids qui est utilisé, comme tu disais, François, les Twi'lek comme bouclier vivant. Moi, j'aurais pas pensé qu'un droïde puisse penser à ça de un. Je suis content que... Il a amené une autre sorte de droïde. Dans le fond, on en avait parlé auparavant dans d'autres épisodes. Ça was en direct Clone Wars. Que c'était un bon point d'amener ça au lieu de... Puis des généraux qui sont un peu plus intelligents, comme celui de la semaine passée. Mais encore, celui-ci est encore plus intelligent parce que là, il a demandé de l'information sur Obi-Wan. Puis il s'en est servi dans le sens que il a envoyé les espèces de bestioles à famille, là, les Gutkurs qui s'appellent. Il a envoyé ça au lieu d'envoyer ses battle droids. Tu sais, il dit, moi, je vais économiser mes forces, mais envoyer ces bestioles-là, puis on, tu sais, dans le fond, il sait qu'Obi-Wan, habituellement, il fait des affaires surprenantes dans ses stratégies, fait qu'il a dit, ben, moi aussi, je vais faire ça. Contrairement au capitaine Martuk de la semaine passée, qui lui a dit, ah, je vais checker Anakin Skywalker, puis il dit, bon, je vais le battre. Il s'est pas adapté, tu sais. Puis on voit qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Puis aussi que les Tactical Droids ont l'air imbus d'eux-mêmes, dans le sens c'est « I am a droid, I'm always right ». Tu sais, il dit ça, je suis un droid, j'ai toujours raison.
Ouais, en tout cas, lui, il pense ça de lui-même, mais les Battle Droids, eux autres, ils pensent pas ça du tout.
Non,
ils
non. Pas. Non, c'est lui qui dit ça à Wat Tambor. Il dit « Ah, j'ai toujours raison », tu sais, dans le fond, là. La partie centrale, quand même, était plus lente. Tu sais, au début, ça c'est comme le débarquement de Normandie, là. Au début.
Ben, en fait, il n'avait pas beaucoup. Moi, au début, lorsque j'ai vu qu'il s'en allait, qu'il débarquait dans la forêt, je pensais qu'il allait faire une grosse scène comme les Ardennes ou les choses comme ça.
Ouais, c'est ça.
Mais pas ça, tout, hein? C'est pas passé exactement comme ça, mais.
Non, c'est ça. C'est un petit hommage, disons, parce que t'avais comme une façade qui avait la bunker, là. Tu sais,
ouais, c'est
peu.
Ça. C'est un peu la scène avec l'angle, avec le bunker en diagonale, là.
Ouais, c'est ça, là.
On dirait que c'est juste ça, le caméo, si tu veux.
Ouais, c'est l'hommage à, là.
Ouais, l'hommage.
Tu sais. Mais bon, utiliser la force pour diriger les grenades EMP, ça c'était cool là, quand même. Là.
Ouais, c'est ça. En fait, il utilise encore une autre fois la force. En fait, il l'utilisait plusieurs fois.
Mm-hmm. Ben, c'était un bon moyen. Dans le fond, si t'es trop loin, tu tires tes grenades pareil, puis Obi-Wan, ben il se charge de les envoyer à bonne distance, dans le fond. Là. Pour revenir à la partie de Numa qui était plus lente au centre, ben. J'ai trouvé ça prévisible, tu sais, on le savait que la petite allait les guider d'une façon quelconque vers les séparatistes. Puis c'est bien qu'il ait pris une petite fille qui parlait pas ou qui était trop jeune pour pas qu'on aille un petit jeune comme dans l'épisode sur Iego, là, un petit fraîchier puis tout ça. Puis dans le fond, il y aurait même au pire, il aurait pu prendre un animal de compagnie. Tu sais, si ça n'aurait pas été une toulée, ça aurait pu être un petit chien. ou l'équivalent, une bestiole, comme je te dis, un animal de compagnie, puis les clones disaient « Here, boy! » Puis ils essaient de trouver ses maîtres, puis il aurait
ouais,
pu...
Ouais, mais ça aurait eu moins d'impact, ouais. Là, quand même que...
Ouais, puis ça aurait été moins émotionnel, le choix d'une petite fille, puis elle a même pleuré, c'était hyper émotionnel, puis bon, ça a mis... ça a montré la compassion, dans le fond.
Puis ils ont quand même bien mixé la musique aussi, c'est comme y a la flûte à part, là, mm-hmm. Il y a un petit la flûte elle commence lorsque aussitôt qu'elle rencontre là.
Mm-hmm.
Ouais. Donc la petite musique elle est bonne là. Elle traduit bien l'émotion si on veut là.
En effet, puis bon, je trouve qu'ils ont quand même bien utilisé la petite fille, c'est quelque chose qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait. C'est quelque chose qu'ils ont pas fait encore donc
En fait, une scène qu'ils ont réussi avec Numa, c'est lorsque justement les deux clones ils s'en vont puis elle sait pas, elle lui suit pas.
Mm-hmm.
Ça c'était bien animé, je trouve là, c'était bien fait.
On a bien vu encore une fois que il y avait quelques clones en armure blanche. Puis quand j'ai vu l'attaque des Gutkur là, les bestioles là. Quand j'ai vu des gars en armure blanche qui tiraient, puis il y en a un qui est resté tout seul en avant, puis les autres ont reculé, j'ai dit, il va se faire bouffer, c'est sûr. Puis si tu continues à le regarder en arrière-plan, il se fait arracher la tête ou quelque chose, il se fait arracher les bras. Il se fait bouffer carrément, là. T'sais, on le voyait un peu à distance, là. Mais
est-ce que, pourquoi il y en a des blancs et des jaunes? Parce que là, je pense que c'était Ghost Squadron ou quelque chose comme ça, Ghost, pas Squadron, mais...
Ouais, c'était Ghost Squadron, là.
Fait que je me disais, ça devait être juste des jaunes, mais non, il y avait des blancs au travers, là.
Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas le choix de mettre des clones génériques, parce que c'est eux autres qui meurent, en général. Mais bon, j'ai bien aimé, comme vous avez mentionné plus tôt, Obi-Wan a utilisé dans le fond, la force pour guider des animaux, un peu comme Jason Solo le ferait dans l'univers étendu quand il était jeune, là. Un peu. Je pense pas qu'on ait jamais vraiment vu ça dans les films. Quelqu'un vraiment contrôler les animaux. Il aurait dû faire ça sur Geonosis tant qu'à ça, Obi-Wan. Là.
Non, mais Anakin l'a fait, là, sur Geonosis.
Ah, ben oui. Le Reek ou le Nexus?
Le Reek, ouais.
Ah, ben oui. Est-ce qu'il a monté dessus, fait que...
Ouais, c'est ça.
Dans le fond, c'est vrai, ça a déjà été utilisé, ben oui. Évidemment, il y a une touche d'humour avec le droïde qui frotte le fond de la cage, là.
Ouais, ben là, ça, je trouve ça ridicule, là. C'est un battle droid. Ils sont pas capables de faire des cleaning droids, come on.
T'sais, yep, this is the worst job in the droid army. Mais bon...
Y a pas des c'est pas à ça qu'ils servent les mouse droids, je m'en rappelle même plus à quoi ils servent les mouse droids. Non, c'est pas ça.
Mais au pire, tu sais, ces colons, ils l'enferment, mais ils communiquent pas par radio aux autres. Ils auraient pu avertir sa gang pareil, même s'ils étaient enfermés, tu sais.
Ça, c'est une autre question que je me suis posée dans ces épisodes-là, parce que où est-ce qu'il y a le droid control ship?
Ils n'ont plus.
Les battle droids, ils fonctionnent avec les droid control ship.
Mais plus après. Après l'épisode 1, non, ils ont corrigé cette affaire-là, il me semble, okay. Que j'ai lu. Ils ont vu l'erreur puis ils ont corrigé. C'est pour ça, je pense, dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, on en voit un autre. Mais ils ont plus besoin de laisser un droid control ship en orbite. Ils sont indépendants, les droïdes Aster.
Okay.
Ils ont modifié ça. Ça, j'ai lu ça quelque part.
Ils n'ont pas eu le choix pour corriger le le problème d'avoir tout un vaisseau.
C'est ça. J'ai plein de petites quick notes que je me suis pris. Tu sais, je parlais de l'accent français des Twi'leks puis tout ça. Finalement, ils n'ont pas d'accent français. Fait que c'est juste Ayla Secura, dans le fond. Même dans le preview du prochain, on entend parler les Twi'leks. Il y en a qui parlent basic. Parce que ceux qui étaient otages, ils parlaient Twi'lek seulement.
Ouais.
Donc là, il n'y avait pas d'accent français, donc je me suis fait fourrer ben raide dans l'hommage que je pensais. Ils ont décidé que Ayla Secura parlait avec un accent français. Bon, OK. On a aussi vu des clones qui avaient des noms, mais qui sont pas morts.
C'est rare, c'est vrai, ouais.
Dans le fond. Mais on dirait que c'est peut-être juste les clones associés à Ahsoka et Anakin, peut-être. Je sais pas. Ceux qui ont des noms qui meurent. Mais bon, je suis content qu'on ait vu des clones qui ont des personnalités qui sont pas morts. C'est vrai que dans Rookies aussi, on a vu des clones qui ont eu des noms puis qui sont pas morts. Donc
Mais si on les revoit dans d'autres épisodes, c'est bon. Parce que en fait, ils ont dit que Boyle puis Waxer, en fait, c'est les meilleurs avec Willy, je pense.
Mm-hmm.
Donc,
c'est ça, I guess we're the best.
Ouais, donc en fait, c'est les meilleurs avec Cody, j'imagine. Donc
c'est pas chien pour les autres, hein.
Ouais, c'est ça.
T'sais, dans le fond, ils ont tous le même entraînement, ils sont tous pareils physiquement, puis tout. Oh, I guess we're the best.
Ouais, mais ils ont peut-être plus d'expérience de combat quand même. Ils ont peut-être le même entraînement, mais tu vois que les Blancs, je veux dire, ils ont pas...
Mm-hmm.
Ils ont pas... Comment qu'ils appellent les ceux qui sont neat, là? Je me rappelle plus comment
ouais,
ils s'appellent.
Ouais, les shiny.
Shiny, ouais, c'est ça.
C'est ça. Une autre affaire que j'ai moins aimé, ben, c'est la planète Rylot, parce qu'il me semble dans l'univers étendu, elle était pas comme ça pantoute. Je sais pas si vous vous en souvenez, peut-être François moins, là.
Non,
mais,
ça me dit rien, là.
Mais toi, JF, il me semble, t'as lu pas mal d'univers étendu, il me semble que Rylot avait un côté super brûlant, un côté sombre qui était hyper congelé, puis t'avais une ligne médiane dans l'ombrage un peu.
Ah oui, ça,
puis,
ça me dit de quoi,
puis,
là?
Puis les Twi'leks vivaient, là, dans la partie entre les deux, dans des grottes. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ouais, mais je trouve que la façon qu'ils l'ont montré, ça ressemble un peu à la façon qu'on l'a vu dans la bande dessinée, dans la série Republic.
Ok, j'ai pas lu la bande dessinée, fait que je peux pas vraiment
dire. C'est ça, on voyait pas vraiment, tu sais, que les Twi'leks vivaient dans des grottes pis tout ça, c'était plus, tu sais, il y avait des... Il y avait beaucoup de passages souterrains pis tout, mais tu voyais qu'il y avait, sur la Terre, il y avait, okay, leur ville pis tout ça, là.
Mm-hmm. Ben, je me souviens plus, je pense que c'est dans les Young Jedi Knights qui ont développé cette planète-là, et dans le fond, qu'on voyait, je pense, Jason était tombé sur le côté brûlant, puis il était comme dans un désert, puis il essayait de retourner vers l'ombrage, tandis que Jenna était du côté congelé, c'était comme la planète hot, c'était de la grosse neige, puis il faisait noir, puis il était congelé. Fait que je pense que c'est de là qu'est venu le concept de Rylot, mais je pense que ça a été complètement changé avec, comme tu dis, les BD qui sont plus récentes, là.
Moi, ça me fait penser à Utapau. Je trouve qu'au niveau des textures, pis ça, je trouve que puis les grottes, pis si mm-hmm. on regarde aussi le preview de la semaine prochaine, on voit un peu, il monte une rampe, il tire, là, un mm-hmm. peu comme quand Obi-Wan montait avec sa bête, là, puis mm-hmm. que Cody tire dessus avec l'ordre 66.
Mm-hmm.
Donc, je trouve que c'est un peu un look recyclé de Utapau.
Okay.
Mais
mm-hmm. en tout cas, l'affaire ouais, qui de... Autant que les graphiques sont beaux, ils devraient améliorer les arbres dans cet épisode-là. C'est vraiment, là, excuse, là.
Ils veulent faire différent.
Les arbres, c'est copier-coller, là. C'est comme, c'est trop évident. Puis il y a même pas, c'est comme des arbres qui poussent sur la roche. T'as pas de gazon, t'as pas rien. C'est comme, c'est de la terre avec des arbres. Je veux dire, ça fait vraiment pas naturel, là. Il est tellement beau graphiquement, l'épisode, sauf ça. Je trouve, c'est comme il aurait pu mettre des colonnes de roche, ça aurait fait la même affaire, là, dans le fond.
En fait, une autre affaire, tu parles de graphisme. Quand la République est arrivée avec tous ces destroyers.
Les Acclamator class, là.
Ouais, c'est ça. Les explosions sont très belles dans ça, là, quand ils se font tirer par les canons à protons, là.
Mm-hmm.
Les explosions, le moteur qui se détache tranquillement, là, c'est super beau, là.
Ouais, ça, c'est la partie que j'avais notée, justement, graphiquement, la scène avec la descente des frégates Acclamator est impeccable. Je veux dire, t'as même pas l'impression que t'es dans un dessin animé, là. C'est vraiment hot.
Ils ont fait sortir les gunships, je pense, en dessous, hein, cette fois-ci?
Non, peut-être, mais il me semble que non. Il était du dessus. Ben, je veux dire, il serait con de les avoir fait sortir en dessous, là.
Attends. Je vais regarder.
Parce que vraiment, non, les ouvertures sont sur le dessus. C'est peut-être l'impression que ça a donné parce qu'ils étaient très loin quand on les a vus sortir. L'autre chose, il y avait une quote qui disait les chances de survie étaient de 742 contre 1. Je pensais que c'était la même quote que C-3PO disait selon les chances de survie sur pendant la nuit sur Hoth.
Je me posais la question, c'est le même chiffre? Ouais,
mais c'est pas le même chiffre.
Non.
Dans celui-là, c'est 742 contre 1. Puis passer une nuit sur Hoth, c'est 725 contre 1. Donc c'est très très proche, mais c'est pas pareil.
Donc c'est encore pire.
Ouais, c'est ça.
En fait, là j'ai en train d'écouter, on le voit pas qu'ils sortent nécessairement du dessus, mais ils passent comme en dessous, en arrière.
Okay.
On dirait que peut-être qu'ils ont parti du dessus puis ils ont passé en arrière puis après ça.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est pas les mêmes Star Destroyer que ceux qui s'ouvrent sur le dessus.
Ouais. C'est vrai, c'est pas les mêmes. Ils sont plus gros.
Ça, c'est ceux qu'on voit dans Attack of the Clones.
C'est vrai. Tu sais, ceux qui décollent à la fin, là.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est ceux qui sont arrivés avec les troupes que eux autres ont essayé de descendre, tandis que ceux d'Anakin, c'est ceux que t'as comme une coche dans l'aile.
Ouais, c'est
comme
ça,
une coche d'Alex sont plus petits.
Ça fait pas un triangle, là. Ça fait comme tu dis, c'est comme cassé. Là.
Mm-hmm. C'est vrai, c'est deux différents. C'est vrai. Donc, t'as raison. Ils sortent peut-être par en dessous. En effet. Une affaire que je me suis posé, les probe droids, ok, c'est la deuxième fois qu'on les voit, les mini probe droids, là.
Ouais.
On les avait vus dans Jedi Crash, puis on les a vus là. Là, je me suis posé la question, ok, c'est les séparatistes qui ont ça. Mais, dans la trilogie classique, c'est l'Empire. Mais l'Empire, en réalité, c'est la République qui est devenue l'Empire, donc les droïdes séparatistes, ça serait... Les probe droids viendraient des séparatistes et non de la République. Tu sais, parce que la République est devenue l'Empire. Fait que ça devrait être la République qui avait des probe droids comme ça.
En fait, oui, mais je trouve que le design ressemble beaucoup à des modèles séparatistes, là.
Ouais,
comme des spider...
Spider droids. Mais ça ressemble plus à un probe droid. Mais bon, moi, personnellement, j'aurais pris les petits hovercam, un peu comme Dark Maul avait là, dans l'épisode 1, les petites boules noires, là.
Mais il y a personne qui a jamais pensé sur les probe droids de mettre un canon, un peu comme dans...
Ouais.
Parce que il espionnait Obi-Wan puis Cody, là. Il était juste là, il aurait pu tirer, puis il s'en aurait... Il les aurait tués les deux.
Hein, puis Obi-Wan s'en est même pas rendu compte, ça se peut pas, là. Tu sais. Excuse, là, mais tu...
Ouais, mais si tu regardes l'épisode 2, Dooku, il se rend pas compte qu'Obi-Wan les espionne non plus, là, donc...
Ouais, ok. Mais Obi-Wan, c'est un Jedi, il est sûrement capable de se cacher dans la force, là. D'une certaine façon, là. C'est pas un bout de tôle, là. Dans le fond. Puis, imaginez-vous donc, tu sais, la petite peluche, le petit toutou que Waxer ou Boyle donne à la petite fille, là.
Ça, je pense que ça existe vraiment, ces toutous-là, ça se peut dire.
Non. Ben, je pense pas, mais si vous allez sur StarWarsKids.com, le site web de Star Wars pour les kids, ils montrent comment faire un en toutou. <Ouais. rire> C'est juste pour te dire comment c'est relié vraiment, là. Bon, les marques sur la casse de Waxer, on l'a mentionné. Avez-vous remarqué le petit bâton de nourriture que Waxer donne à Numa? Ça ressemble étrangement à ce que Luke avait sur Dagobah dans sa boîte de ration.
Ouais, c'est
une espèce de truc de cigare. Ça avait, au début, ça avait l'air quasiment d'un... Quand tu regardes Empire Strikes Back, t'as l'impression qu'il... Coudonc, c'est-tu des cigares qu'il y a dans sa boîte? Ben non, c'est un bâton de ration. Puis même Yoda, il goûte à ça, il dit « Bleh, c'est ça que tu manges, tu sais? »
Mm.
Fait que c'est un peu la même affaire que... J'ai trouvé que c'était un beau petit lien à faire. Il y a aussi Obi-Wan qui a perdu son sabre, puis Cody qui lui remet. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Tu sais, quand il amène les gurtuks dans un cul-de-sac, puis il fait tomber, il dit au clone de tirer le pont, là, l'espèce de viaduc. Ouais. Puis là, après, Obi-Wan se sauve, puis là, Cody, il remet son sabre.
Mais c'est où qu'il a échappé? Je l'ai pas vu. C'est peut-être parce qu'il sert de ses deux mains pour
les attirer,
là, mais...
C'est ça, mais si tu regardes dans Revenge of the Sith, après qu'il... Je me souviens plus c'est quoi la scène, mais tu vois Cody qui lui remet son sabre encore de la même façon. Mm. Donc, Cody va lui remettre son sabre encore dans l'épisode 3, juste avant qu'il reçoive l'ordre 66.
Ouais, c'est vrai, juste avant, ouais.
Ah, puis un autre affaire que j'ai trouvé bon. Tu sais, quand le Tactical Droid se fait attaquer par les Twi'leks comme il se fait mobber, là...
Ouais, c'est ça.
C'est lynché ou whatever, puis Obi-Wan il cache les yeux de Numa pour pas qu'elle voit.
Puis elle regarde au travers.
Elle regarde au travers Astas pour voir le massacre, là, puis là il arrache la tête, là.
Does not compute.
C'est ça.
Donc c'était un plan qu'il avait pas anticipé du tout, que les Twi'leks l'attaquent, là, dans le fond.
C'est ça.
Il est pas infaillible, c'est un peu ça qu'ils veulent
non,
prouver.
Non, ouais, c'est
là.
Ça.
Okay. La seule affaire que j'ai remarqué aussi, ben en fait c'est un peu banal là, mais les gurtuks, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à, tu sais, aux bestioles que Jabba il donne des pichotes puis qu'il mange là.
Ah ben oui.
Je trouve que c'est en plus gros là, mais c'est vraiment comme ces petites bêtes là.
Mm-hmm. Ben c'est-tu plus ceux que dans l'épisode 1 ou ceux dans Return of the Jedi? Parce que ceux dans Return of the Jedi c'est une espèce de grenouille qui prend puis qui mange, tandis que ceux que tu parles, je pense c'est ceux dans l'épisode 1 à la Pod Race, fait comme il bouffe puis il crache. Ouais, il a fait tomber une d'une pichinotte, puis il y en a un qui crache sur le gong. Donc on va parler du prochain épisode qui est Liberty on Ryloth. Donc on a vu par le preview que c'est un Mace Windu centric, si on peut dire. Donc,
ouais, c'est sûr que c'est lui qui va être vraiment mis en évidence là, puis on voit qu'il est quand même assez puissant puis dans l'action.
Mm-hmm. Je suis assez excité de voir cet épisode-là parce qu'on bon Mace Windu est quand même assez badass en général là.
Habituellement.
Mais ce qui m'inquiète, ben pas qu'il m'inquiète, mais je pense que dans le prévu, il mentionne le climax vers la fin de la saison. Est-ce que l'autre épisode d'après va être encore meilleur? C'est encore, je sais pas, après le prochain épisode, ils vont-ils pouvoir vraiment battre toute cette action-là? Là?
Je pense que oui. Justement, on va en parler du teaser qu'ils ont fait pour le dernier épisode qui s'appelle Hostage Crisis, et on nous présente un personnage qui se nomme Cad Bane. Si on regarde la bande-annonce rapidement, c'est assez simple. On a le message « Il est ce qui détruit la vie, la destruction et la mort le suivent. Son nom, Cad Bane. » Tu sais? Donc, c'est comme... tout en avec comme une ombre rouge là, tu sais. Moi, je veux dire, il a l'air vraiment de Clint Eastwood avec un chapeau de cowboy là, tu sais.
Ouais.
Vraiment le look là. Dave Filoni a dit à WonderCon que cet épisode là serait très sombre et que les jeunes enfants ne devraient pas le regarder. Imagine si lui dit ça. Donc je me demande, donc c'est sûr qu'il va avoir un cliffhanger, ou en français on dit une accroche là, pour la fin de la saison. Mais moi, j'ai regardé le teaser frame par frame, OK? Puis on voit des affaires intéressantes. Ben évidemment, je vais dire les personnages que je pense avoir vus. Padmé, Bail Organa. On voit un Senate Commando, un peu comme le Capitaine Argaius. Ben d'ailleurs, on voit une scène, on voit le Sénat, je pense, dans une des scènes. On voit des clones, bien sûr, on voit Anakin. On voit Palpatine. On voit Orn Frieta, qui est l'espèce de son assistant bleu, là. Je sais pas si c'est un Twi'lek obèse, là. C'est son espèce d'assistant. On voit IG-88. Et puis, on voit, roulement de tambour, Aura Singh. Donc, j'avais même entendu une rumeur avant que Aura Singh serait probablement là. Puis, si vous regardez dans la dernière scène, où est-ce qu'on voit un groupe de prisonniers, puis t'as 4 Bounty Hunters qui approchent du groupe, chacun de leur côté, à des points de vue diamétralement opposés. Puis la personne en haut à droite qui sort de l'ombre, c'est Aura Singh. C'est très difficile à voir, mais on reconnaît la silhouette un peu. Donc ça pourrait être... la rumeur est peut-être sortie de là. Mais en tout cas, moi, on l'a vraiment pas en HD sur YouTube, là, fait que c'est dur à voir, là. Puis, ben, votre première réaction du teaser, François?
Ben, moi, écoute, j'anticipe, là, je sais pas si ça a l'air très bon, là, mais c'est dur à dire, là.
OK. Toi, JF?
Un peu, aussi, tu sais, je suis un peu comme François, je suis comme, OK, ça a l'air... Mais il présente comme si c'était le pire bon chasseur de primes qu'il a jamais eu. Là,
ouais.
Il serait meilleur que Boba Fett ou que Aura Singh. Je sais que Aura Singh même en va être là aussi. Là.
C'est ça. Mais tu sais, la destruction et la mort le suivent. C'est comme wow. Là. Il est ce qui détruit la vie. On est comme wow.
Il disait la même affaire de Dirge dans l'autre série Clone Wars. Puis il a pas fait grand-chose.
Il s'est fait torcher assez vite.
Ouais, c'est ça.
Puis si vous avez été voir la dernière nouvelle sur cette clan que j'ai faite, on savait que dans l'encyclopédie officielle de Steve Sansweet, il y a des indices sur la saison 1 Clone Wars. Et j'ai été voir Cad Bane. J'ai pris la chance. Et oups, il y a une belle description de Cad Bane. Puis là, je l'ai traduit, fait que je vais vous la lire. Cad Bane, c'est un chasseur de primes du Rose travaillant pour le comte Dooku durant la guerre des clones. Bane vola un holocron contenant une liste d'enfants sensibles à la force, puis utilisa cette information pour kidnapper et transporter ses enfants vers la planète Mustafar, où Darth Sidious planifie de les utiliser pour ses propres fins diaboliques. Fait que si ça, c'est dans l'encyclopédie, on peut dire que c'est canon, là, je dirais.
Ouais.
Puis ça, je pense que c'est un bon indice sur qu'est-ce qu'on peut voir dans les deux prochains, là. Parce que c'est sûr que le premier épisode, c'est le dernier de la saison, et la suite va être seulement... au début de la saison 2. Là. c'est sûr qu'ils vont faire un cliffhanger. Je veux dire, tu peux pas faire de cliffhanger.
C'est encore drôle.
Ouais. Mais ça a l'air d'une super bonne, une super bonne duologie, si c'est le cas.
Ouais, c'est ça.
Je veux dire, la description, voilà un holocron avec des listes d'enfants, Force Sensitive, puis Mustapha, puis tu sais, Dark Sidious, quoi, il veut les entraîner pour devenir des Sith, ou je sais pas trop, là. C'est vraiment...
Il veut les détruire, c'est son plan pour plus tard, je sais pas.
Ouais. Mais bon, c'est une super bonne description, donc j'espère que c'est ça, vraiment. Mais où est-ce que Sensu aurait pu prendre cette information-là, sinon, tu sais, pour son encyclopédie officielle? Fait que, à moins qu'il y ait une histoire planifiée pour lui plus tard... Mais enfin, ça a l'air quand même assez intense comme épisode. Mm. J'ai bien hâte de voir ça.
Ça nous questionne encore un peu sur le public cible, parce que s'il dit ne suggère pas aux enfants de le regarder, c'est le dernier épisode de la saison, tu sais, c'est comme tu dis, ah, oh, il va être super bon, mais non, regarde-le pas.
Je pense qu'il voulait plus dire les jeunes enfants, donc probablement genre 6 et moins, là, 6 ans et moins. Peut-être. C'est peut-être parce que les enfants se font comme battre un peu, ou je sais pas trop, là. C'est le fait que c'est des enfants qui se font kidnapper, ça peut leur faire peur aux jeunes enfants, là.
Ça fait penser à nous autres quand ils ont jamais montré les derniers épisodes d'Albator.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Enfin. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte, et c'est nous qui va faire la critique de cet épisode, donc, ça va bien tomber. On va pouvoir en discuter plus profondément. La prochaine
fois. Malgré que l'épisode de la semaine prochaine, ça serait probablement un fun à critiquer aussi. Là.
Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Mais ça va être enregistré en après-midi, donc.
Ouais.
Malheureusement. Mais on va faire un des épisodes de Star Wars en direct, je crois, celui du mois de mars. Va être la discussion générale devrait être un roundtable sur la saison 1 au complet. Donc. Vous serez invités, bien sûr. On va essayer de rejoindre le plus de monde possible, surtout ceux qui ont commenté les épisodes Clone Wars, donc moi, JF, François, Louis, Henri puis Gaspard. On va essayer de réunir au moins ces personnes-là pour discuter justement de la saison 1 au complet. Là. Ça serait intéressant, disons-le.
Est-ce qu'on sait quand la série va sortir en DVD? Je parle pas juste des 4 épisodes, là, mais...
La rumeur est... Ça serait cet automne. Même
juste avant la saison 2.
Avant la saison 2, même, c'est ça. Peut-être que la saison 2 commencerait juste en octobre 2009. Là. C'est très loin. Enfin, on verra quand ils vont le confirmer. Mais c'est ça, le DVD sortirait à fin septembre. Là. C'est quand même loin. Là. Probablement fin août, début septembre. Là. Justement, comme tu dis, j'en fais ça pour promouvoir le début de la saison 2. Là. Il va sûrement avoir des petits extras avec des petits extraits de la saison 2. Là. Ça, c'est sûr et certain.
Ah oui, c'est ça, là.
Puis là, on va apprendre que la suite de l'épisode avec Cad Bane, ben, il va être Jar Jar.
Non, c'est lui qui va sauver tout le monde.
C'est lui qui va c'est le battre en temps première
partie, ouais, c'est ça, la première partie va être super dark, là, super sombre. Puis là, la deuxième partie, Jar Jar.
Ou ben, Jar Jar se déguise en enfant. Là.
Ouais, c'est...
Ben oui, j'étais un Bombad Jedi. Mise à Bombad Jedi.
Bombad général.
Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a l'épisode Bombad Jedi qui se faisait prendre pour un Jedi.
Ouais.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'il a aussi été Bombad général quand il a conduit les deux clones vers la base des pirates. C'est sur les espèces de.
Ben dans l'épisode 1, il était un Bombad général.
Ouais, aussi, c'est vrai. En effet. Bon, ben sur ce, merci beaucoup, messieurs.
De rien.
Et on se reparle dans 2 semaines. Ceci conclut le 17e épisode de Star Wars en direct édition Clone Wars. La semaine prochaine, nous discuterons du dernier épisode de la trilogie Ryloth, Liberty on Ryloth. Je vous rappelle aussi que ce week-end aura lieu la 82e émission de Star Wars en direct. Donc, soyez à l'écoute. Vous pouvez nous rejoindre en envoyant un email à studio@swendirect.com ou nous laisser un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager swendirect.com. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.